Alors, dans les nouvelles technologies et dictionnaires d'un siècle à l'autre, dans cette première partie, j'évoquerai finalement de permanentes alliances constructives et en même temps prométhéennes. Et la première réflexion est la suivante, c'est l'idée d'une conquête permanente de la réduction du décalage. Détruisme, d'abord. Un dictionnaire, c'est un livre. Mais c'est un livre particulier à dimension consultative. C'est un livre essentiellement temporel. C'est-à-dire que il est une référence pour l'univers, pour la langue, mais cet univers et cette langue est en constante évolution. Du coup, c'est un témoignage privilégié, vénérable, qui essaye de nous informer avec le moins de décalage possible dans le temps présent. Mais du coup, on a besoin tout le temps des nouvelles techniques pour être le plus rapide possible dans l'enregistrement des informations. Et Maurice Tournier avait cette très jolie formule, il disait que le dictionnaire était toujours en retard, était un témoin toujours en retard d'un usage. Et effectivement, le dictionnaire, papier en tout cas, mais électronique aussi d'une certaine façon, est toujours en retard. Sa vocation et son destin, si on peut dire, c'est de ne jamais pouvoir être en contemporanéité avec ce qu'il décrit. Ce qui fait du lexicographe une sorte de Sisyphe de la description, aussi bien référencée du côté encyclopédique que du côté de la langue. Deuxième remarque, de la Bible au dictionnaire. Alors le rapprochement peut surprendre. Pourquoi ce rapprochement? Parce qu'il y a des objectifs similaires et une sorte d'aventure commune. En termes techniques, je vais mieux m'expliquer en quoi ce rapprochement n'est pas fortuit. Bien, tout simplement, les dictionnaires sont des ouvrages de référence. La Bible aussi. La Bible, comme les dictionnaires, doivent être consultés facilement, fréquemment. C'est un texte fragmenté. C'est un texte supposé faire autorité. Et c'est en même temps une structure forcément rigoureuse, mais en même temps souple. Tout ça rapproche la Bible et le dictionnaire. Il faut pouvoir y faire de rapides renvois. C'est à la fois linéaire, mais en même temps, c'est en réseau analogique. Et du même coup, il ne faut pas s'étonner, ces constats étant faits a posteriori, qu'en termes techniques, eh bien, Bible, ou en tout cas grand texte religieux pour l'Europe, puisque ce que j'évoque ici est plutôt l'histoire européenne, bien sûr, des dictionnaires, eh bien, Bible et dictionnaire subissent à peu près le même parcours et sont souvent en concomitance. Je vais maintenant raconter un peu ce parcours. La première révolution technologique, je dirais tout le temps technologique, les académiciens seraient furieux, ils voudraient que je dise technique, mais ça me paraît dans l'usage aujourd'hui de dire la révolution technologique. La première révolution technologique, c'est plutôt celle qui part sous l'Antiquité du volumen. Alors, le volumen, peut-être vous en souvenez-vous, c'est sur un bâtonnet d'ébène, un rouleau de papyrus qui fait une quinzaine de mètres de long, entre 10 et 15 mètres, et qu'on le voit évidemment dans toutes les représentations de l'Antiquité, qu'on déroule et sur lequel est écrit quelque chose. Alors, on le déroule, vous imaginez la difficulté, c'est difficile d'ouvrir deux rouleaux en même temps, d'en tenir deux en même temps, c'est très difficile de consultation, puisqu'on ne peut pas, quand on est au bout, très rapidement, au bout des 15 mètres, remonter au premier mètre, puisque c'est quasiment physique, et on reviendra sur cet aspect physique des dictionnaires. Eh bien, il est clair que ça ne favorise pas la naissance des ouvrages de consultation ou bien des ouvrages religieux. Et quand on va passer au codex, ce que les spécialistes du livre appellent le codex, c'est-à-dire, dans le fond, ceci, imaginez des plaques d'argile et imaginez des ferrures qui retiennent ces plaques d'argile. Et puis après les plaques d'argile, bien sûr, on aura du papyrus, des feuilles de papyrus, puis on aura le parchemin. Donc c'est notre livre actuellement. Ceci, et bien sûr, on peut tourner les pages, on a le recto et le verso, on peut en ouvrir deux en même temps, et on peut avoir un index et des références et une table des matières. Ce que le volumen ne permettait pas. Et d'un seul coup, on a un ouvrage de consultation qui va être très partant pour cette révolution technique, parce que comme toujours, il ne faut pas imaginer qu'on est passé du jour au lendemain du volumen au codex, ça se fait en biseau, c'est bien sûr l'Église, et notamment alors l'Église en train de se constituer, le mouvement chrétien, qui a vu la possibilité de mieux diffuser le texte. Et très vite, d'autres ouvrages de consultation sont apparus, avec toute cette aventure qu'on pourrait résumer assez rapidement, des dictionnaires qui vont d'abord être avec les étymologies d'Isidore de Séville au VIe siècle, eh bien, tout entier gouverné par la métaphysique. C'est-à-dire que les étymologies d'Isidore de Séville, c'est à la demande d'un roi wisigoth en Espagne, au-delà donc des Pyrénées, où sont installés les Wisigoths, et qui est devenu catholique. C'est à sa demande un ouvrage rassemblant les connaissances du moment par volume, avec des volumes où vous avez la cuisine qui est décrite, les animaux, etc. Mais le tout, avec l'étymologie, ça veut dire la recherche du vrai, mais c'est une recherche métaphysique. Et bien entendu, on ne donne pas l'étymologie au sens moderne du terme. À chaque fois, c'est ce que le ciel nous cache, c'était la théorie du moment. Et donc, quand on avait Malum, qui représente la pomme, évidemment, il y a Malum, le mâle, et du même coup, on explique que Malum tire son nom, bien sûr, de cette fameuse pomme d'Adam et d'Ève, Ève plutôt, qui est au début de tous nos déboires. Donc, on voit que c'est une étymologie qui n'a pas de sens. Mais en termes de lexicologie, pas vraiment, mais de lexicographie, c'est le début d'un rassemblement de savoirs par volume et par thème. Puis après, on a les fameuses sommes théologiques, saint Thomas d'Aquin, on a les miroirs, qui sont là aussi un réceptacle de tous les savoirs du moment, thématisés, structurés, mais pas vraiment alphabétisés. Et puis vont venir ces fameuses gloses, gloses et glossaires. Et là, on est donc autour du 8e siècle, c'est les gloses, ou 9e, les gloses de Reichenau, qui sont des commentaires de la Bible. Vous voyez que d'une certaine façon, si la technique mêle les ouvrages de consultation et le texte religieux, nos dictionnaires, d'une certaine façon, sont aussi nés de gloses faites, tirées de la Bible. Donc le glossaire de Reichenau, c'est tout simplement les mots expliqués dans un latin plus facile, des mots donc de cette Bible de Saint Jérôme qui était en latin, cette Vulgate, et qui sont explicités, et on y a vu l'embryon de nos définitions de dictionnaire. Quand on rassemble les gloses, ce qu'on pourrait appeler les notes d'une certaine façon, on a un glossaire. Quand on a le glossaire, on le met dans l'ordre alphabétique, et on commence à avoir l'idée de dictionnaire. Alors, je reviens du même coup, si vous voulez, à cette idée de 1539, où Robert Étienne offre le premier dictionnaire où la nomenclature est d'abord en français, puis latin. L'année d'avant, il avait fait un dictionnaire latin-français. Et bien entendu, c'est quelque chose qui est symbolique parce que la même année, le 10 août, François Ier avait réussi, avec l'édit de Villers-Cotterêts, dans son article 111, avait réussi à imposer ce que les rois auparavant avaient essayé aussi, Louis XI avait essayé, mais il réussit à imposer le fait que la langue française soit la langue officielle, la langue de l'État. Le dictionnaire, dans le fond, français-latin, naît en même temps, pour ainsi dire, que cette loi. Il ne faudra pas s'étonner, c'est un rapport que je fais tout de suite, il ne faudra pas s'étonner que ce soit les hommes de loi qui soient les plus intéressés par la langue française dans un premier temps. Et quand on évoque le trésor de Nicot en 1606, donc un peu plus d'un demi-siècle plus tard, Nicot est ambassadeur. Nicot est un homme de loi. Et c'est aussi un coup d'État qu'il fait dans le simple titre. Le titre, c'est Trésor de la langue française, et puis il y a toute une série d'autres choses que je ne vais pas redire pour ne pas allonger, mais il n'y a pas un mot de latin, du latin dans ce titre. Or, c'est quand même encore un faux bilingue, comme le prénommait Quémada, c'est-à-dire français, traduction du mot en latin, puis, ou qui vient après, puis longues explications sur, en définitive, le mot en lui-même. C'est donc, si vous voulez, déjà, je crois d'ailleurs, je vais essayer de vous en retrouver un passage ici, j'aurais dû mettre la marque tout à l'heure. Bon, je vous le retrouverai tout à l'heure. Mais ce qui est, le voilà. L'article langue, par exemple, L-A-N-G-U-E, proprement print, prince, P-R-I-S, P-R-I-N-S, bon, proprement pris, est l'instrument ou membre que Dieu a formé tant en la bouche de l'homme pour parler, chanter, goûter, lécher, attraire, ramonceler et mettre en bas la boisson et viande et modifier la bouche qui sont les plus connues fonctions naturelles, dit celui membre, qui aussi ont la gueule des bêtes brutes pour naturellement effectuer en elles les dites fonctions, hormis le parler. Vient la traduction en latin, lingua. Le commentaire se poursuit. Duquel mot latin vient celui français et italien ? Italien, lingua, et l'espagnol, lengua. Et puis un peu plus loin, il donne des expressions. Restreindre la langue d'aucun, et puis traduction tout de suite en latin, et linguis, occludere linguam aliqui. Légèreté de langue, linguae volubilitas. Donc on voit bien comment est conçu, si vous voulez, ce type de dictionnaire. On est tout près du dictionnaire monolingue. On est au début ici. Du XVIIe siècle, 1606, ou à la fin peut-être de cette période de la Renaissance. Alors, Nico, là c'est quand même dommage de passer à côté, je pense aux étudiants. Nico, c'est à lui qu'on doit la nicotine, la nicotiane, puisque c'est lui qui a rapporté à la reine un cadeau qu'on lui avait fait d'un plant de tabac. Et donc on l'a appelé l'herbe, pas de Nico, mais l'herbe à Nico, puis la nicotiane, et il nous en est resté la chose un peu désagréable qui est la nicotine. Mais c'est de là que ça vient. Jean Nico est à la fois l'auteur d'un dictionnaire et d'un mot. Il est porteur d'un mot. On est là dans le système de l'imprimerie. Quelle va être la nouvelle réforme, puisque ce que j'essayais ici de montrer dans un premier temps, ce sont donc les grandes étapes. Bien, la nouvelle réforme va être celle qui, après le volumen, après le codex, après l'ouvrage imprimé, après, bien entendu, l'imprimé moins cher, celui de Robert Étienne est destiné, dans le fond, à une population riche, à la noblesse et à la bourgeoisie très riche. Petit à petit, au XVIIIe siècle, la bourgeoisie éclairée va profiter aussi de ces ouvrages. Mais il va venir le moment, au XIXe siècle, où l'imprimerie va se développer de manière extraordinaire et où, à ce moment-là, il va même y avoir, à partir notamment de 1833, avec cette fameuse loi Guizot donne obligation à chaque commune de disposer d'une école et à chaque département d'une école normale, eh bien, il va y avoir une démocratisation avec petit à petit le dictionnaire s'introduisant dans le public scolaire. Et Larousse en est issu. Donc là, on est dans un ouvrage qui est toujours moins cher, toujours pouvant être plus petit. Ça sera les premiers petits dictionnaires au XIXe siècle. Il y en a avant, mais là, qui vont être développés et se vendent en grand nombre. Je pense notamment à ce dictionnaire qui a été conçu en 1856, qui s'appelle « Le nouveau dictionnaire de la langue française » par Pierre Larousse, qui est instituteur, qui est né en Bourgogne, dont le père était forgeron et la mère aubergiste, et qui va être, si j'ai évoqué la loi de 1833, ce n'est pas un hasard, qui va être la deuxième génération d'instituteurs, puisqu'il va bénéficier du concours d'école normale. Dans ce village de Bourgogne, son instituteur le trouve remarquable et donc le pousse à passer ce concours. Il y est reçu et il se retrouve à l'école normale de Versailles, parce que Lyon n'a pas encore eu le temps de construire une école normale. Et quand il arrive, quand il sort de cette école normale, instituteur, il revient dans son village. Il devient donc à la fois directeur de l'établissement, avec des classes, il ne faut pas l'oublier, qui pouvaient aller de 15 élèves à une centaine d'élèves, parce que c'était des classes uniques. Et vous allez comprendre que tout ça n'est pas éloigné de la notion de dictionnaire. Dans ces classes uniques, au départ, au début du XIXe siècle, en campagne, il y avait un enseignement qu'on appelait individuel, c'est-à-dire que pour apprendre à lire, il y avait un seul manuel, et chacun des élèves venait derrière le maître, ce qui explique les illustrations qu'on a des classes dans un grand désordre que l'on voit sur certains tableaux. Et là, comme d'un seul coup, l'imprimerie est en train de se développer, que venant d'Angleterre, il y a l'enseignement mutualiste, C'est-à-dire l'idée que dans une classe de 80 ou 100, on puisse avoir le meilleur élève en mathématiques, le meilleur élève en arithmétique, le meilleur élève en orthographe, qui puisse prendre en charge un petit groupe. Et donc c'est l'idée des préfets, l'idée mutualiste qui nous vient d'Angleterre. Ça ne plaît pas évidemment au pouvoir catholique français. Donc on lance autre chose, l'enseignement simultané, qui vous paraît, vous, naturel, c'est-à-dire un même groupe d'élèves avec un même enseignement, donc à un même niveau, un cours préparatoire. Et à partir du moment où on a cette révolution qui se met en place, pédagogique, il y a des manuels qui arrivent et des dictionnaires. Et les dictionnaires, eh bien, vont pouvoir se répandre. Rappelez-vous qu'Hachette, qui était donc normalien, il était à l'école normale supérieure, qui était considéré comme un foyer un peu séditieux, fermé, et avait dit, bah, puisqu'on m'empêche d'enseigner, j'enseignerai par les livres. Et c'est comme ça qu'il a construit sa maison d'édition. Larousse, quelques années après, monte sa maison d'édition en 1852. Et ils vont profiter de cette loi de 1833 parce qu'ils vont répandre des dictionnaires, des ouvrages, dans les écoles. C'est la démocratisation. Donc, si vous voulez, c'est aussi une révolution technique qui s'opère, mais la révolution va se poursuivre aussi par une dynamique éditoriale étonnante, puisque quand vous arrivez à la fin du XXe siècle, en 2000, par exemple, il s'est vendu 1 million de petits Larousse. Donc, on voit bien le progrès qui est fait techniquement, de Petit Larousse, tous en couleur. Donc on voit bien le progrès qui est fait et qui va être d'une certaine manière à son sommet et être relayé par une nouvelle révolution. On avait le volumen, on a eu l'imprimé, le codex, l'imprimé pas cher, l'imprimé démocratique, répandu dans les classes. Nous voilà avec un nouveau moyen électronique et la révolution, en quelque sorte, électronique, lecture du dictionnaire sur écran. Alors ça, c'est évidemment quelque chose qui est une profonde métamorphose en cette fin de XXe siècle et en ce début de XXIe siècle, avec peut-être une remarque incidente. Vous aviez un grand mouvement, difficulté de consultation. Vous aviez un gros mouvement de gros in-folios, difficultés quand même d'achat, puis des achats de plus en plus simples. Et là, maintenant, vous avez très peu de mouvement, vous avez quelques doigts qui bougent et vous avez sur l'écran les informations qui apparaissent. C'est une révolution profonde qui est en train, pour le moment, de mettre en péril un petit peu des maisons comme Larousse et Robert, parce qu'ils ne trouvent pas la parade à autre chose. Le volumen est évidemment réservé à une population riche, les dictionnaires, les in-folios à une population riche. Aujourd'hui, le dictionnaire, les jeunes le veulent gratuit. La culture, ils la souhaitent gratuite. Et du même coup, c'est évidemment au bout des doigts et en même temps gratuit. Donc le moindre effort est physique et le moindre coût aussi pour arriver à une sorte, en ce moment, de rupture, puisque les maisons d'édition n'étaient pas préparées à cette affaire et qu'il leur faut trouver de nouvelles formules. Alors je vais vous paraître complètement fou, mais pour ne pas aller plus loin dans ce rappel technologique, le dictionnaire de demain, c'est celui qui s'installera, comme ça se fait dans certains jeux haptiques aujourd'hui, c'est celui qui s'installera sur les lunettes. C'est celui auquel on parlera. Ça commence déjà sur Internet. Vous avez déjà des sites où on vous explique. Vous cherchez le mot cancer, il y a certains sites où il n'y a pas d'écriture, on vous parle. Un grand professeur vous explique pendant 5 minutes de quoi il s'agit. Et il est probable que demain, le dictionnaire ira aussi dans ces directions-là, avec la possibilité d'imprimer à distance, en disant simplement « imprimer » et la chose s'imprimera. Ça nous paraît fou, mais c'est assez évident. Alors, peut-être dire, puisque j'étais parti sur la Bible, en 1961, colloque organisé par Bernard Quémada. Qui est invité à ce colloque à Besançon, où on se servait les cartes perforées? Alors les cartes perforées, j'en ai apporté une, parce que mes étudiants, chaque fois que j'en parlais, ouvrent des grands yeux et ne se souvenaient plus. Je vais la mettre ici, parce que je crois que je ne dois pas sortir du champ de la caméra. Mais les étudiants, quand je leur parlais des cartes perforées, ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. C'est normal, ça n'existe plus. Eh bien, en 1961, les premiers dictionnaires, fait de manière mécanographique, c'est le terme qui convient, utilise des cartes perforées de ce type. Sur ces cartes perforées, là, vous avez un mot qui est indiqué. Les petits trous, ce sont des lettres, ce sont des symboles, ce sont des chiffres. Il y avait des milliers de cartes perforées comme ça. Il y en a eu 400 000 qui ont été faites pour le grand Larousse encyclopédique 1960-64 avec Claude Dubois, et il y avait Jean Dubois aussi qui participait à ça. Jean Dubois est ascologue en 1961. Sur ces cartes perforées, il y a l'étymologie des mots, il y a un certain nombre d'informations, c'est stocké dans une machine, et quand ça passe dans la machine, en fin de parcours, et on a aussi oublié ce genre de choses, pas les gens de ma génération, sortez, imprimez eh bien, en accordéon, ce qui se trouvait dans le fond en information sur ces cartes perforées. Et là, ça peut paraître surprenant, qui est invité au-delà de Jean Dubois, c'est Larousse, le révérend père Bussat. Alors on se demande ce que vient faire un homme d'église ici. Le révérend père Bussat, il se trouve qu'il a près de Turin un Centro per l'Automazione dell'Analista Letteraria, je prononce peut-être comme un pied d'italien, mais on essaie de faire bien, et ce centre automatique est piloté, patronné financièrement par IBM, qui offre du matériel en grand nombre et cher, parce qu'il s'agit de traduire la Bible dans les meilleures conditions possibles, et dans le plus possible de langue, mais en étant le plus près. Et du coup, évidemment, la notion de concordance, la notion distinction et du coup de recueil d'informations, de corpus, il faut dire le mot, est absolument essentielle. Et pour traiter les grands corpus, eh bien, il faut évidemment des cartes perforées. Plus tard, derrière les cartes perforées, il y aura la bande perforée. Derrière la bande perforée, il y aura la bande magnétique. Et derrière, il y aura après l'ordinateur, bien entendu. Et du même coup, que dit le révérend père Bussat en 61, et ça, je trouve ça assez extraordinaire, puisque c'est il y a plus de 50 ans maintenant, plus d'un demi-siècle, où on n'avait aucune idée, finalement, des possibilités d'Internet et ces choses-là. L'on a conscience que nous tous, en 1961, qui prenons part au colloque, sommes pionniers de l'automatisation de l'analyse lexicale. Nous illustrons un rôle nécessaire dans l'évolution qui est en cours du livre, c'est-à-dire de la symbolisation matérielle des connaissances humaines qui est en train de changer de dimension. Comme au temps de Gutenberg, à côté des manuscrits, s'est placé le livre imprimé. Aujourd'hui, aux côtés des cahiers, des livres imprimés, est en train de se placer le livre électronique. C'est peut-être une des premières occurrences de ce mot « livre électronique ». On est en 61. Donc c'est dire, et c'est peut-être là aussi un hommage que je dois rendre dans cette conférence à Bernard Quémada, c'est que qui dit dictionnaire dit souvent pionnier, pionnier dans les nouvelles technologies, et on le sent ici dans un colloque de ce type qui rassemble des linguistes, des lexicologues, des lexicographes, et qui ont déjà l'idée d'un livre électronique qui n'est même pas encore d'ailleurs vraiment dans les mœurs, mais on sent bien que c'est une question de quelques années. Voilà comment on est entré dans la galaxie Gutenberg. Ce qu'il faudrait aussi maintenant rappeler, puisque je suis toujours dans le domaine de ce qui est, dans le fond, rapprochement avec la Bible, nous allons le quitter pour évoquer l'imprimerie. L'imprimerie au service de la didactique et de la normalisation linguistique. Donc après avoir fait ce rapprochement entre Bible et dictionnaire, montrer le côté toujours proche des nouvelles technologies, rappeler, mais vraiment très rapidement, que quand on rentre dans la galaxie Gutenberg, comme disait McLuhan, il y a un certain nombre de constats immédiats, c'est-à-dire que le contenu est très dépendant des techniques, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. La première dynamique est évidemment éditoriale. La première dynamique qu'entraîne l'imprimerie, c'est que un arrêt aux pages d'érudits influents qui bénéficiaient des manuscrits, eh bien, à celui-ci fait place des lecteurs fortunés et pour finir, je l'ai dit tout à l'heure, la population tout entière. Aujourd'hui, un dictionnaire est devenu un objet du quotidien. Il y a un dictionnaire par foyer, il s'achète par palette entière dans les supermarchés et on sent bien l'impact démocratique qu'a pu entraîner l'imprimerie. La seconde dynamique, je ne vais pas insister là-dessus, bien sûr, c'est une sorte de truisme, la seconde dynamique est linguistique, parce que d'emblée, le texte imprimé entraîne la normalisation. Cette normalisation, c'est le fait que de l'objet unique, on est passé à l'objet démultiplié, et que du même coup, il y a une typographie, il y a une économie, on va toujours vers l'économie, on parle beaucoup d'économie en linguistique, mais il y a une économie aussi d'effort, et du même coup, il y a une homogénéisation de la langue, l'imprimerie entraîne forcément eh bien, des règles qui vont se mettre en place entre les imprimeurs. On se rappelle que Dubélé, évoquant l'imprimerie, disait que c'était la dernière des muses, hein, que c'était la muse qui s'ajoutait. Et il y a une force régulatrice, derrière aussi, évidemment, François Ier, cet édit de Villers-Cotterêts. Et quand on évoque l'Académie française, forcément, on parle de la famille Didot, des imprimeurs. On parle la famille Firmin Didot ensuite, qui est la même avec de nouveaux avatars. Et il faut rajouter aussi la notion d'accentuation, qui, là je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui tout au long du XVIIe siècle est discutée, et au XVIIIe siècle, on en prend acte dans nos dictionnaires de l'Académie française, avec parfois des surprises, parce qu'au moment où on ajoute des accents aigus, des accents graves, il est évident que les imprimeurs n'ont pas toujours suffisamment de caractère, et que c'est Liselotte Pasque Biedermann qui avait mis en relief, non sans un clin d'œil, que ce qu'on croyait des erreurs de l'Académie était en réalité des insuffisances des imprimeurs, parce que quand dans une plage il y avait trop d'accents aigus ou trop d'accents graves, je ne sais plus quel accent était en question, il n'en avait plus. Et donc, à la fin de la page, c'était toujours aux fins de page on supprimait l'accent, on mettait un E tranquillement parce qu'on n'avait plus le caractère qui correspondait. Donc, vous voyez, la technique est toujours aussi là. Elle est plus présente qu'on ne le croit, cette technique, quand il s'agit d'imprimerie. J'évoque souvent, à cet égard, l'effet cravate dans le Petit Larousse. Qu'est-ce que j'appelle, que peut-on appeler l'effet cravate ? C'est que quand vous avez un Petit Larousse qui doit tous les ans bénéficier de mots nouveaux, une cinquantaine, une soixantaine, enfin tout dépend des années. La difficulté, c'est que c'est toujours le même contenant. De temps en temps, on ajoute des pages, bien sûr. Et que de toute façon, comme chaque année, chaque fois qu'on ajoute un mot à la lettre A, évidemment, ça a des résonances si on doit tout appliquer jusqu'au bout du dictionnaire. Il faudrait refaire le dictionnaire complètement. Alors du coup, quand on rajoute un mot, on ne bouge pas le début de la page, on ne bouge pas la fin de la page, et on s'arrange pour glisser le mot dans la page. Ça veut dire qu'on va supprimer quelque chose. Ça veut dire qu'on supprime un exemple pour gagner une ligne. Ça veut dire qu'on supprime un mot, c'est difficile, ça arrive. Ça veut dire que s'il y a une photographie, eh bien, on diminue. Et c'est comme ça que, je crois que c'est sur Albert Camus que j'avais fait l'expérience. Vous avez Albert Camus qui apparaît au moment où il a le prix Nobel de la littérature. Et alors, il est là, bien visible, cravate presque. Et puis, petit à petit, il faut gagner de la place. Ça monte, il n'y a plus que le nœud de cravate. Et puis après, il n'y a plus que la tête, parce que de toute façon, on a gagné quatre lignes pour pouvoir glisser le mot. Alors, la catastrophe, c'est quand sur la même page, il faut glisser deux ou trois mots. Et tout ça, c'est des contingences, des contraintes typographiques et financières. Parce que bien entendu, si on devait tout changer chaque année, vous n'auriez pas votre Petit Larousse pour une trentaine d'euros. Ça coûterait bien plus cher, quand on y réfléchit, avec le nombre d'illustrations par page, plus de 2000 pages, bon, c'est pas cher du tout. Ça ne peut être pas cher que par une longue expérience et ce type de situation où l'imprimeur a encore son rôle. Il n'y a que quand on fait une refonte, et c'est ça une refonte, tous les 5-6 ans, tout dépend, c'est un choix qui est fait. Quand on fait une refonte, on met tout à plat et on peut recommencer complètement l'ouvrage dans sa présentation. Pas dans son contenu, ça serait suicidaire. Mais vous voyez bien que tout ça, ce sont des contraintes. Et je vois parfois des analyses linguistiques très fines, faites sur le Petit Robert ou faites sur le Petit Larousse, que je trouve très attachantes. Mais en même temps, je me dis, bon, il y a aussi quelques contraintes dictionnériques, et je viens de prononcer le mot, qui sont là et dont il faut tenir compte. Alors, je viens de prononcer un mot que je voulais évoquer plus tard, mais tant pis, je vais l'expliquer. Que se passe-t-il dans ces révolutions que j'ai évoquées tout à l'heure ? Quand on est en 1971, que paraît le premier volume du Trésor de la langue française ? Il faut se rappeler que c'est conçu à partir de ce fameux Gamma Bull 60 que Bernard Quémada avait obtenu donc d'IBM et qui était à l'époque le plus gros ordinateur du monde pour le plus gros, ce qui devait être le plus gros dictionnaire français et sans doute de la francophonie. Alors c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est en définitive que l'informatique était en train de tout changer au cours de ces 20 dernières années. Alors, ce qui est important de mettre en avant, c'est que là, Bernard Quémada, qui a été consulté par Paul Imms dès le départ, qui était chargé de la documentation, et qui donc était le spécialiste de tout ce qui concernait la documentation, donc par fiche mécanographique et ensuite sur le plan informatique. Bernard Quémada a, dans les années 1980, l'idée très claire qu'il faut dissocier désormais la lexicographie de la dictionnairique. Alors, quelle est la distinction ? La lexicographie, dans son sens ordinaire, je dirais, dans son usage courant, même si c'est un mot quand même relativement rare, la lexicographie, c'est le fait de rédiger des dictionnaires. Et lexicographe, celui qui élabore un dictionnaire. Il faut toujours le préciser parce que j'ai le souvenir d'une conférence qu'on m'avait demandé de faire quand il y avait eu l'ouvrage de Grémas qui avait été republié au PUF, et le directeur des PUF m'avait demandé de faire un petit discours sur, puisque c'était sa thèse en fait, enfin la thèse qu'il n'a jamais faite mais qu'il pouvait faire office de thèse, sur les vêtements, et on m'avait demandé de faire un discours sur donc Grémas lexicographe. Donc j'ai tout le temps évoqué en quoi il avait fait vraiment œuvre aussi un peu de lexicologue dans cette thèse. Et à la fin de la conférence, il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit « Vous avez vraiment très bien parlé, c'était passionnant, mais qu'est-ce que c'est un lexicographe ?» Et donc, d'un seul coup, je me suis dit « Bon, j'aurais peut-être pu expliquer ce qu'était effectivement un lexicographe. » Quand on est toute la journée dans le domaine, on finit par oublier d'expliquer les mots dont on se sert. Donc, au sens général, un lexicographe, c'est celui qui élabore un dictionnaire. Mais Quémada va lui donner un autre sens, un sens, disons, plus professionnel. Pour lui, la lexicographie, et donc un lexicographe, c'est la lexicographie, c'est le fait de procéder à une recherche sur un ensemble de mots, ça peut être une centaine, ça peut être des milliers, ça peut être encore davantage, des dizaines de milliers, sans souci autre que scientifique, sans souci de publication pour un public donné, avec un format donné. Donc c'est le chercheur. Et il est vrai que quand s'intéresse aux mots, c'est sans fin. On peut vraiment fouiller et trouver énormément d'informations. Mais il y a un moment donné où il faut le mettre en forme pour éventuellement l'offrir. Alors Bernard Quémada disait on peut être lexicographe sans faire de dictionnaire. On est lexicographe en rassemblant des informations, en les offrant sur un support, dans des fichiers. Il pensait déjà à des supports informatiques qui soient destinés à des chercheurs comme vous, à des étudiants passionnés, etc. C'est de la lexicographie. Qu'il dissocie, et là je trouve que le concept est vraiment très éclairant et en même temps très utile, en tout cas je ne peux pas m'en passer lorsqu'il s'agit de parler des dictionnaires, qu'il dissocie de la dictionnairique étant le fait de produire un ouvrage, produire au sens commercial du terme, un ouvrage pour un public donné, à un prix donné, avec un nombre de pages donné, et évidemment ayant un certain bénéfice. Quand on m'a demandé de faire le dictionnaire de citation, la lexicographie m'aurait poussé à faire 1000 pages de plus ou 2000 pages de plus, à aller plus loin, etc. Il n'y a pas de limite. Mais la dictionnairique, c'est-à-dire en gros l'éditeur, m'a dit 576 pages et pas une de plus. Et du coup, on discute quelle taille de caractère, comment mettre en place les choses, et puis le maquettiste arrive, et finalement, j'ai été obligé d'enlever 100 pages. C'est pas de la lexicographie, c'est de la dictionnairique. Puis au dernier moment, on a réduit un peu le caractère, donc on a pu glisser quelques pages, sauver quelques pages. On n'est pas là dans un dictionnaire, si vous voulez, qui est conçu uniquement scientifiquement. Il y a des contraintes techniques, et tous ceux qui font des dictionnaires sont soumis à ces contraintes. Seul, peut-être, eh bien, l'institution qu'est le CNRS, que sont les universités, que sont les chercheurs, les professeurs d'université, ou les passionnés travaillant sans contrainte particulière, peuvent se permettre d'avoir des recherches sans balisage, sans être cernés quantitativement. Mais sinon, dès qu'on a affaire au dictionnaire, on est dans ce problème-là. Alors, pourquoi c'est arrivé cette distinction en 1980 ? Parce que tout simplement, et là j'ai envie de dire, le pouvoir était peut-être en train de changer de main. De quel pouvoir s'agit-il ? Du pouvoir des éditeurs. Je m'explique. Les éditeurs ont vu d'un très bon œil le fait qu'on puisse bénéficier de supports informatiques avec une base de données dans laquelle sont stockées les informations et d'où on pouvait sortir peut-être différents types de dictionnaires, décliner des dictionnaires différents. L'un aurait l'étymologie, eh bien, on supprime avec la machine ce qui est étymologie, le nombre de mots, on peut là aussi jouer avec la machine sur la fréquence, sur des choses de ce type. Et du même coup, on pouvait à la limite faire des dictionnaires sans lexicographe à partir du moment où il y avait une base de données faite par des lexicographes. Et la dictionnérique devient ici l'objet d'un débat. Alors c'est moi qui donnerai l'étape suivante, c'est qu'il peut arriver qu'il y ait de la dictionnérique sans lexicographie.